Interview.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que nous écoutons sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 sur Luc Andivois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes avec Carotte. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour Radio Diwa.
Bonjour Carotte, c'est toujours un bonheur de te recevoir. Et là, tu es ici pour nous présenter une exposition qui va débuter le 15 juillet et ça se passera à la galerie Art Zone, qui est tenue par Catherine Médico, au 29 rue Émile Laurent. Une exposition à 10, donc. Et c'est une exposition qui s'intitulera « Exposition première partie de Curarete ». Alors, c'est une proposition faite avec des peintures qui se rapportent à la pharmacie, principalement.
C'est l'histoire des remèdes à travers les âges, l'histoire de l'évolution de la pharmacie, parce que ça n'a pas toujours été une pharmacie. Et voilà, et donc Catherine a pris pour la galerie 11 d'étoiles, qui donc la chronologie n'est pas complètement respectée, il y a des grosses sautes, c'est-à-dire on n'a pas le pré-hellénistique, le pré-hippocratique, mais on a par contre jusqu'aux années 50, jusqu'à la fin. Donc il y a un peu pharmacie grecque, un peu pharmacie romaine, un peu pharmacie de Merlin. Et puis après, bah, il y a du Rembrandt, ouais, c'est vrai. Donc il y a un peu tout, mais c'est, l'ordre n'est pas tout bien rangé. Il y a plus encore à voir.
Alors un festival de couleurs, on peut dire aussi. Hein. C'est un hommage aussi par le biais de peintures connues, de grands maîtres de la peinture, que tu reprends un peu à ta manière, et d'exposer aussi cette thématique sur la pharmacie dont toi-même et ta famille étaient liés.
Absolument. Donc moi je suis issue d'une lignée d'apothicaires, savant mélange de gens de la terre avant tout, et respectueux de la terre, de la planète. Bon, c'est vrai que mes grands-parents ne savaient pas à l'époque qu'ils mangeaient du bio et qu'ils finiraient à l'ère nucléaire, mais je veux dire, voilà, c'était d'abord des gens de la terre, de la faune, de la flore. Mon grand-père connaissait par cœur les champignons. Il était chasseur aussi, il était chasseur-cueilleur et fabricant de potions. Donc, il était exactement un peu comme les sorciers des premiers âges du soin. Et j'ai eu beaucoup plaisir à partager la fin de sa pharmacie avec lui. Et du coup, je lui devais un peu cette exposition pour montrer un peu tous les savoirs perdus. Enfin, montrer tous les savoirs perdus, c'est un petit peu un grand mot. Mais disons, rappeler combien les soins sont avant tout composés de simples. Donc les simples, c'est les plantes, les plantes qui poussent dans les campagnes, ce qu'on appelle assez même souvent des mauvaises herbes. Et l'utilisation des simples ou de composés de simples, donc comme le nom l'indique, ben c'est simple, hein, et c'est local. Et puis ben voilà, après c'est connais-toi toi-même, donc le temple d'Apollon, connais-toi toi-même et soigne-toi toi-même. Et donc curarte, bon, c'est là où c'est rigolo, c'est qu'il y a art dans curare, donc les curares c'est les poisons, curare en latin c'est soigne-toi, donc curarte, soigne-toi, donc littéralement soigne-toi en latin. Donc j'invite les gens en fait à ça, à repartir un peu en arrière, aux origines des plantes et des noms des plantes, qui sont souvent d'ailleurs celles de Dieu ou assez évocatrices. Et puis de redécouvrir le jardin et la nature un peu sous un autre aspect. Et puis aussi, ben, bien sûr, de s'occuper de soi, de sa santé et des petites choses qui chatouillent, qui gratouillent ou qui rendent la vie moins simple. Les petits handicaps de tous les jours, les petits maux, les petites maladies. Puis voire même les plus grosses maladies, voire même la chirurgie, pourquoi pas, voire même la dentisterie, parce que j'ai un tableau sur les remèdes de grand-mère où la grand-mère arrache une dent à la petite fille. Donc ben voilà, ça se fait aussi très bien, hein, et puis ça se soigne. Et puis bon, ben voilà, c'est pour aider peut-être au monde de demain, où il n'y aura plus trop de médecins, plus trop de pharmacies, plus trop de... Voilà, on va être un peu en face de nous-mêmes, hein, et de nos responsabilités. Donc essayons de garder notre tête digne et notre santé bonne.
J'ai entendu, naguère, que la couleur permettait de vivre plus longtemps et ça a pu se vérifier avec de nombreux peintres. Est-ce que, justement, ce travail de la couleur, pour toi, c'est bénéfique? Et est-ce que c'est aussi... Est-ce que tu t'es penché sur la notion de la couleur dans le soin?
Alors, ça s'appelle la chromothérapie. Alors oui, bien sûr, c'est... comment dire, c'est la sensibilité qui fait qu'on se rend compte des pouvoirs vibratoires, des couleurs et des ambiances colorées. Donc par exemple, quand on visite un hôpital, on ne verra pas de rouge, évidemment, ou même d'orange vif. Il n'y aura pas de couleurs vives, il n'y aura que des pastels et plutôt des bleus, des verts, parce que ça calme l'esprit, ça calme l'âme et ça rend l'impatience plus cool et le patient plus tranquille. Donc oui, bien sûr, les couleurs jouent. Les contrastes aussi, les noirs, les blancs qu'on met au-dessus des bébés, du nourrisson pour... parce qu'ils ne voient pas encore bien les subtilités des couleurs. Mais oui, si le monde est aussi divers en couleurs et en variété de fleurs ou d'herbes vertes ou de verts des arbres, c'est bien pour ces raisons-là. C'est qu'on baigne dans un bain qui est sensible, eh ben évidemment, soigne, calme, invite à la méditation et au repos de l'esprit.
Donc tu passes aussi au travers de peintures connues de grands maîtres. Tu citais Rembrandt en introduction. On peut reconnaître justement cette composition de ces tableaux. Et toi, tu y amènes quoi ensuite?
J'y amène le modernisme, en fait. Parce que rien n'a trop changé l'univers. En fait, là, l'univers médical vient de subir une vraie révolution là, avec le Covid et tout ça. Bon, donc je vais pas parler de cette révolution-là. Qui, somme toute, m'intéresse peu et qui marque la fin d'un soin et la fin d'une lignée liée au soin de la guérison. Parce que là, maintenant, clairement, c'est pour le pognon. Donc, et puis, c'est tellement clair que ça fait un peu mal aux yeux. Donc oui, du coup, les bonnes couleurs. Et je ne me souviens plus de ta question, mais c'est oui, les couleurs et surtout les mettre dans la peinture. Alors, moi, je suis là parce que j'aime infiniment la peinture et que les peintres anciens, mais aussi du 19e, ont vraiment contribué à la personnalité que j'ai, à la culture que j'ai et à la peinture que je pratique. Donc il y a toujours un peu du vieux, un peu du bleu et un peu du nouveau. Sinon, dans ma palette, j'essaye d'utiliser toutes les couleurs, vu que je puisse en les inventer quand je ne les ai pas directement, parce que chaque couleur a un pouvoir de guérison. Et que donc, je ne vois pas pourquoi je me priverais d'en utiliser un. Donc, il y a du rose, du violet, du jaune. Enfin, sauf quand je suis en fin de cycle de peinture, où là, des fois, ma palette a un peu diminué. Et donc, les couleurs deviennent peut-être un peu moins chatoyantes et diverses. Mais j'ai la volonté de ça. Donc, rendre la gloire aux peintres du passé qui, pour X raisons, ont fait un travail fabuleux, voire révolutionnaire. Rembrandt, enfin tous ceux qu'on connaît dans leur style étaient des révolutionnaires, soit parce qu'ils avaient une personnalité révolutionnaire, ou parce que clairement leur peinture, ça se sent dans leur peinture, et qu'ils ont fait une peinture révolutionnaire, ou qu'ils ont tenté des trucs. Donc respect pour tous ces gens révolutionnaires qui tentent des trucs en art et qui les réussissent. Donc Rembrandt, il faut voir que la peinture, c'est une critique de l'âge dans lequel elle a été faite. Aucun peintre n'est innocent, même le plus attaché à son payeur, comme a pu l'être De Vinci, ou comme certains l'ont été pour le pape, ou les grands pouvoirs de dictature ecclésiastique, tous ont mis les pieds dans le plat et tous se sont arrangés pour ne pas exactement respecter la commande et mettre de leur grain de sel et de leur esprit de rébellion dans la peinture. Après, il y a toute une part de la peinture catholique, on va dire, d'église, la peinture ecclésiastique, qui aussi, elle, vient dénoncer ou expliquer ou mettre en lumière les mensonges de l'Église dont elle est censée fabriquer les anges et faire les beaux plafonds du paradis. Donc il y a toujours des signes cachés, il y a toujours des choses à regarder, il y a toujours des choses qui nous indiquent que ce qui est montré n'est pas la vérité exacte, qu'il faut aller chercher dans les détails pour bien comprendre ce que l'artiste a voulu dire.
Est-ce que c'est une idée justement qu'on peut découvrir sur cette étoile ? Est-ce qu'il y a un message caché dans ce que tu proposes ?
Bah, y a des messages cachés dans tout ce que je propose, mais c'est quand même aux gens de faire un peu l'effort d'aller les chercher. Pour ça, faut ouvrir un tableau comme si tu ouvrais une fenêtre sur un autre univers, et puis avoir envie de s'intégrer et puis de découvrir un peu quel est cet univers, quelle est cette planète enchanteresse, et quels sont les extraterrestres qui habitent là, et quels sont leurs modes et coutumes, et comment font-ils pour survivre ? Enfin, voilà les questions qu'on se pose quand on voit des images parlantes. Donc moi, je fais des images parlantes. Alors du coup, normalement, je les fabrique pour pas avoir besoin d'aller les raconter, mais les gens, ils ont souvent besoin qu'on leur raconte des histoires. Donc du coup, ben, j'en profite d'être à la radio pour dire que sur les petits papiers que j'ai mis à la galerie de Catherine, j'ai mis mon téléphone. Je suis à 20 minutes en mobylette pour rejoindre de mon bus la galerie. Et du coup, si les gens veulent une visite ou me rencontrer ou parler avec moi de mon travail, ben surtout, ils m'appellent. Et puis hop, 20 minutes après, moi, j'arrive. Et puis comme ça, on se rencontre. Et puis comme ça, je leur permets de peut-être un peu mieux rentrer à l'intérieur des tableaux. Mais enfin, pour moi, c'est d'abord un travail personnel. Il faut que les gens soient curieux. Voilà, c'est la curiosité que je veux aiguiser. Et puis, je veux que les gens soient curieux à propos de mon travail.
À voir tes tableaux, on ressent un bonheur dans leur confection. Est-ce que, justement, tu y prends du bonheur quand tu peins une toile ? Combien te prend une toile, justement, pour sa création ?
Bah, au minimum, pour la fabrication de la toile, au minimum un mois. Pour chaque tableau. En plus, c'est des assez grands formats, donc ceci explique cela. Après, la nature a horreur du vide, et moi aussi. Donc, chaque espace est rempli. Il n'y a pas trop de bords. Mais en fait, ce travail d'un mois, il m'a pris peut-être un an avant. C'est-à-dire, c'est aussi la lecture, c'est la lecture. La lecture et aussi la peinture, bien sûr, parce que je continue à regarder. J'en ai pas fini hein, avec la peinture des maîtres. J'en aurais jamais fini avec la peinture. J'en aurais jamais fini. Et puis, voilà, c'est permanent. C'est mon délire, c'est ma passion, C'est ce qui me rend vivante, c'est ce qui me titille, c'est ce qui me fait aller plus loin, c'est ce qui me fait continuer, parce que j'ai pas fini.
D'ailleurs, le matériau, le médium que tu utilises, c'est la peinture à l'huile ou acrylique ?
C'est de la peinture acrylique de chez Leroy Merlin dans des pots de 2 litres et demi. J'essaye d'avoir le plus grand spectre. Et puis, c'est un peu compliqué de garder la même palette parce que chez Leroy Merlin, ils changent souvent de nom et de rangement et tout ça. Donc, la palette, elle évolue en fonction du facing de chez Leroy Merlin. Bon, dit comme ça, ça peut paraître chiant, mais voilà, c'est comme ça. Et ensuite, la peinture à l'huile, j'ai commencé par la peinture à l'huile, mais ça m'a filé des très grosses allergies. Donc, je peux pas. Et puis, ce qui est vraiment chouette avec l'acrylique, c'est que les peintures sèchent vite et que donc on peut en faire beaucoup. Avant, le peintre, dans son atelier, il fallait que chaque œuvre qui était faite à l'huile, elle ait sa place parce qu'il faut que ça sèche pendant des années et il ne faut pas que ce soit en contact avec un autre tableau. Donc voilà. Et puis, les toiles, par contre, c'est de la très bonne façon parce que j'achète des très beaux châssis avec du chanvre. Enfin, je m'arrange pour que le châssis puisse tenir longtemps dans le temps. Il est pareil, il y a des... Je fais de l'après en blanc, donc ma toile, elle est bien travaillée, le fond de ma toile est bien travaillé pour recevoir l'application des peintures. Et puis ensuite, il y a 3 bonnes couches de vernis de bonne qualité aussi pour qu'elle puisse bien voyager, que je sois pas, que j'ai peur de les abîmer pendant les transports d'une expo à l'autre. Et puis que voilà, que quand les gens ils ont payé une œuvre, je sais pas, 1000 ou 2000 balles, et ben ils sachent que cette œuvre-là, ils pourront la faire hériter à leurs enfants, voire à leurs petits-enfants. Ça me paraît très important que l'œuvre tienne la route dans le temps.
Justement, par rapport à tes peintures, on peut y trouver principalement du figuratif, la figure humaine, c'est ton sujet de prédilection, et puis son décorum aussi, qui se rapporte à lui. Comment agences-tu tous ces personnages, puisque, comme tu disais aussi, il n'y a aucun espace vide sur la toile. Pourquoi ce remplissage, pour toi, il y a nécessité ?
Ben c'est parce que c'est naturel. Parce que voilà, la nature aussi, elle a horreur du vide et elle remplit les espaces vides. Et après, moi, j'ai envie de profiter au maximum de cette toile qui m'est offerte. Je veux dire, si on parle en termes de liberté, et que j'en viendrais à dire que finalement, cette toile de 83 cm par 93 cm, c'est mon seul et unique espace de liberté. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, je peux faire réaliser tout ce que je veux. J'irai pas en prison, j'aurai pas d'embrouille, j'aurai pas d'amende. Je suis entièrement libre. Alors, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est l'histoire de l'humanité, les humains. Ben, comme je le dis toujours, hein, c'est les héros morts que je vais déterrer pour qui m'aident à venir me battre pour les causes d'aujourd'hui. Parce que, finalement, on voit bien qu'on n'a pas évolué tant que ça. Oui, le confort a évolué, l'eau chaude coule, tout ça. On a les légumes qu'on veut toute l'année. Bon, OK, tout ça, c'est très bien. Mais la philosophie, l'homme, lui... Vous pensez qu'il a évolué ? Vous pensez qu'il a grimpé, qu'il s'est rapproché de Dieu ? Moi, ce n'est pas du tout l'impression que j'en ai. Donc aussi, en perpétuant un art comme celui de la peinture, mais ça pourrait être aussi la danse ou quelque chose d'un peu vieux, d'un peu désuet, mais qui fait vraiment du bien et que certains méprisent, mais qui au final, ben, moi, me permet de rester debout et d'être fier du boulot que j'accomplis. Et puis... d'avoir de compte à rendre à personne. C'est ça aussi, d'être peintre. C'est quand même de faire un petit peu ce qu'on veut. Alors moi, bien sûr, c'est pas le paysage, parce que j'oserais pas peindre un arbre et tout ça. J'oserais pas vraiment peindre la lumière. Je peux pas faire des trucs pareils. Ça, c'est pour Dieu. Par contre, peindre mes contemporains, l'homme, enfin, ou même mes ancêtres, ça, je peux le faire. J'ai le droit de le faire. Et du coup, effectivement, l'homme est mon thème, ben voilà, la recherche, se bien connaître soi, c'est tout, et bien connaître l'autre, et prendre le temps, et mettre en avant les valeurs de l'humanité qui, moi, me transcendent, et que je trouve que ces valeurs-là qui sont les bonnes.
La semaine dernière, lors d'un interview, nous parlions de la contre-culture américaine, notamment avec Robert Crumb. Je voulais savoir si toi, dans cet esprit aussi, tu avais cette mentalité peut-être de contre-culture française ou contre-culture en général.
Ben non, je dirais que plutôt je suis pro-culture, sauf que ma culture, elle n'est pas contemporaine. Moi, je suis pro-culture d'avant. Parce que là, clairement, on est trompé. L'art contemporain, qu'il soit théâtral ou pictural ou même cinématographique, bon, ben, les mecs, ils n'inventent plus rien. Enfin, moi, ça me saoule, quoi. Franchement, j'ai l'impression de revoir ad vitam aeternam toujours la même histoire, le même scénario. Alors après, les gens, c'est plus vulgaire ou c'est plus cruel ou c'est plus rentre-dedans. Bon, mais ça ne rend pas les gens tellement plus heureux, je vois, à la sortie du truc. Alors que le but, c'est finalement de les rendre joyeux. Moi, quand les gens, ils voient une expo, et qui regarde tout bien, ben il sort de là, comme tu disais, joyeux. Ça rebooste, ça donne confiance dans l'humanité, confiance dans demain. Voilà, c'est chouette. Et en plus, ça traduit de quelque chose de profond. Puis en fait, pour en venir aux États-Unis, moi, je suis vraiment anti-américaine primaire. Donc, ce qui se passe sur le territoire américain, ça ne m'intéresse pas du tout.
Notamment que Crumb est venu dans le sud de la France... finir ses jours. Hein.
Bah, tant mieux pour lui, c'est bien, c'était une bonne destination, il a bien fait.
Je parle de contre-culture, mais est-ce que ça serait plutôt contre-académisme ?
Bah alors, contre-académisme, ça, je ne sais pas trop non plus.
Tu parles d'art contemporain qui est quand même aujourd'hui dans un certain académisme.
Ah voilà, tu veux dire que l'art contemporain, il est devenu académique ? Ouais, ben ça, je ne sais pas répondre non plus à cette question parce que moi, je ne suis pas du tout sensible à l'art contemporain. Après, je reçois ça dans la figure vraiment comme une fraude à l'intelligence, une fraude au bel esprit humain, une fraude à la beauté, une fraude... Pour moi, voilà, c'est frauduleux. Après, si des gens font des sous avec, eh ben, très bien. Si des jeunes artistes sont d'un coup multimilliardaires, ben, très bien. Moi, ce n'est pas du tout mon cas parce que... Justement, moi, je fais des trucs fins, je fais des trucs précieux. C'est pas rentre dedans, faut le découvrir. Voilà, c'est la beauté, c'est mon luxe, c'est la beauté de mon travail, c'est le luxe que je m'offre. Et effectivement, pour ceux qui aiment les grands, les monochromes bleus ou les trucs graphistes qui tiennent plus de la publicité que de l'enchantement, bon, ben voilà, chacun ses goûts. Après, tout est disponible aujourd'hui, donc faut pas s'inquiéter.
Je ne m'inquiète pas. Comment conçois-tu justement un tableau ? Est-ce que tu passes par l'étape du dessin ? comment s'ajoutent justement les détails? Est-ce qu'ils sont introduits petit à petit ou ils sont déjà dans la conception au départ?
Bon, alors là, l'exposition sur les curares et la pharmacie, il est différent parce que bien évidemment, pour faire une exposition utile, cohérente et vraie, je me suis inspirée de choses qui ont été dessinées, des gravures. Le travail de Darigo, l'architecte qui avait fait de la publicité pour les laboratoires Roussel vers les années 60, qui avait fait 15 planches sur l'histoire de la pharmacie. Donc ça m'a servi de surtout les décors pour savoir à quoi ressemblaient les pharmacies, comment elles étaient goupillées, où était le jardin, etc. Où étaient les feux, enfin comment s'étaient présentées juste les shops. Et après, j'ai plein de bouquins de pharmacie, donc c'est très livresque. Cette exposition-là, elle est très livresque et je peux montrer mes bases de travail un petit peu à tout le monde. Là où je me suis permis de liberté, c'est dans la facture et dans les petits rajouts qui ont été faits parce qu'il y avait plein de trucs à dire et plein de trucs à rajouter. Et d'ailleurs, si je pouvais faire des carrément grands tableaux, très grands tableaux, immenses tableaux, ça serait avec joie. Mais dans le bus, bon, c'est pas évident. Et cela dit, tu me disais, c'était quoi la question, Yves? Je ne me souviens plus.
C'était par rapport à la conception de tes tableaux, les phases d'étapes.
Bon. Donc là, du coup, pour celle de la pharmacie, j'ai la pharmacie qui existe et après, je la place à gauche, à droite et je mets ce que je veux dedans. Mais ça, j'ai une base pour d'habitude de la peinture que je fais hors de cette série qui contenait de l'architecture, parce qu'il y a rarement de l'architecture, c'est surtout des gens qu'il y a dans mes tableaux, et de la faune, de la flore, des trucs comme ça. Donc là, je suis d'inspiration complètement libre. D'abord, je connais bien mon sujet, c'est-à-dire je me mets à peindre quand je connais parfaitement bien le sujet que j'ai à peindre. Tous les détails, si c'est un homme, un humain, tous les détails de sa vie depuis le berceau jusqu'à sa mort, et les petites anecdotes et tous les petits trucs que je vais chercher vraiment loin, 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 loin. Et ensuite, je suis libre comme l'air. Donc, je fais très peu de dessins préparatoires, sauf quand il y a plusieurs personnages. Et c'est vraiment, vous verriez mes petits dessins sur mon cahier de correspondance, là, en plus à carré, à carreaux. Donc, c'est vraiment du très vite fait, du très fugace. Et en fait, quand je pars, je ne sais pas ce que je vais avoir à l'arrivée. Et tout mon cheminement et toute ma joie de peindre, c'est celle-là, c'est que au départ, j'ai une idée, je sais ce que je veux représenter, j'ai des vagues idées, je mets les trucs qui doivent absolument, les mots-clés, quoi, qui doivent absolument être représentés sur le tableau, et après, j'invente. Et après, une fois que le truc est fait, je viens retravailler avec des glacis, donc c'est des petites couleurs qui sont très mélangées d'eau, comme un peu de l'aquarelle. Je viens repasser sur les couleurs de manière à obtenir des contrastes, des profondeurs, et je lèche, si je puis dire, mon tableau, jusqu'à temps que, à l'œil, d'un peu loin, et en floutant un peu mon regard, il y ait une harmonie des couleurs. C'est-à-dire, je vois une image un petit peu floue, comme ça, mais je vois que les couleurs, hop, c'est bien agencé, l'œil les prend bien, et hop, là, c'est bon, je sais que je peux vernir.
Une exposition donc qui commencera à partir du vendredi 15 juillet, un vernissage j'imagine.
Alors non, parce que Catherine, moi je suis très férue de vernissage nécessairement pour revoir les copains puis faire une petite présentation de l'expo. Donc là pendant les vacances, comme il y a beaucoup de tourisme et tout ça, sa boutique est très visitée. Donc elle veut pas prendre le temps d'un vernissage, mais en fait ils ont beaucoup aimé mon travail et ils vont prendre petit à petit les autres œuvres. Donc du coup, là, jusqu'à la rentrée, ça va être cette expo. Mais par contre, en mois de septembre, quand l'expo va tourner, que je vais ramener 11 nouvelles toiles, alors là, on fera un petit vernissage avec la petite présentation qui va bien et tout.
Et puis un finissage peut-être aussi.
Et un finissage, j'espère. En tout cas, vendredi, là, dans deux jours, moi, j'y serai à partir de 10h pour amener mes petites, toutes les fiches explicatives, etc. à propos des tableaux. Donc la visite, elle se fera par le biais de la lecture si je ne suis pas là. Mais après, je serai là tout vendredi. Et j'espère que vous viendrez me visiter nombreux parce que la galerie est vraiment sympa. En plus, elle est fraîche, comme tu le faisais remarquer. La rue est bien plus ombrée que la Camille Buffardel. Et puis Catherine, elle n'a pas que ça, elle a plein aussi de jolies choses dans sa galerie. Donc c'est à mon avis un endroit à connaître de dit, puis à faire passer ses amis, ses parents, ses grands-parents, enfin tous les gens qui vont venir vous voir en vacances là.
Il y a un site internet aussi qui s'intitule
Par rapport à l'exposition...
Je crois que c'est la carotte.
Ah ben, moi, j'ai la-carotte.com. Ça, c'est le site art majeur. Après, tout ça, bon, là, vous avez beaucoup de les prix, puis beaucoup d'explications sur les tableaux. Les tableaux n'y sont pas tous, parce qu'il faut des très bonnes qualités de photos. Je n'ai pas toujours des très bonnes qualités de photos de mes toiles.
Voilà, il y a une sélection de tes toiles par thématique.
Et puis, sinon, tout simplement, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez carotte avec un K, artiste ou artiste peintre, et puis là vous allez avoir par image tout un tas d'images, et la plupart c'est mon travail.
Eh bien, Carotte, je te remercie d'être venue, et en espérant te revoir peut-être aux alentours de la rentrée pour cette continuité d'exposition.
De toute façon, moi, je quitte pas Radio Diwa, je quitte pas Yves, je quitte pas Baptiste, je quitte pas Are You Ready, je suis toujours pas loin, et puis bien sûr, au plaisir de reparler avec vous de ces bonnes choses-là à la radio.
Bonne soirée à toi, Carotte.
Merci, Yves, au revoir Radio Diwa, au revoir les amis.
Au revoir.
Strange smile.